La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. À quoi pensent les bébés? Que ressentent-ils? Que comprennent-ils du monde qui les entoure? Leurs grands yeux ronds nous donnent l'impression qu'ils portent un regard perpétuellement éberlué sur tout ce qu'il y a autour d'eux. Mais comment savoir ce qu'il se passe réellement dans leur tête? Nos invités Guylaine Dehaene et Olivier Mascaro tentent de répondre à cette question. Ils sont passés maîtres dans l'art d'interroger les tout-petits avant qu'ils ne sachent parler. Ils vont nous raconter les études qu'ils mènent et nous dire ce que savent les scientifiques de ce qui se passe dans la tête d'un petit humain dans les premiers mois de son existence. Ce dossier étant rediffusé, nous ne pourrons pas répondre à vos questions comme nous le faisons habituellement. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Daniel.
À la une de la science aujourd'hui, un jeu vidéo, mais aussi une nouvelle façon de faire de la recherche en sciences cognitives.
Oui, puisqu'on va sortir nos téléphones et on va jouer à Sea Hero Quest. C'est une application de jeu qui va aider les scientifiques à diagnostiquer la démence. On va naviguer sur les mers et prendre des photos de monstres avec le neuroscientifique Antoine Coutreau.
Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisé par Fanny Boyon et préparé par Hannibal Wachi.
La tête au carré. Les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Autour de la table, Ghislaine Dehaene, pédiatre et neuroscientifique, Olivier Mascaro, chercheur au Baby Lab de Lyon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors pour beaucoup de gens, les bébés, dans les tout premiers mois de leur existence, ont pour activité principale, pour ne pas dire exclusive, manger et dormir. Et finalement, on se rend compte, en vous écoutant, que c'est beaucoup plus complexe que ça, la vie intérieure d'un bébé.
Bien sûr, parce que d'abord, il a beaucoup de choses à apprendre. Il faut qu'il apprenne à reconnaître son papa, sa maman, frère et sœur, et aussi qu'il apprenne... Alors ça, reconnaître les gens autour de lui, vous allez me dire, n'importe quelle espèce sociale le fait, les petits macaques ont aussi à faire ce genre de choses, mais ce que doit faire en plus le bébé humain, c'est apprendre le langage et apprendre beaucoup de choses culturelles et politesses que doivent lui transmettre ses parents.
Alors Olivier Mascaro, vos études montrent par exemple que les bébés comprennent très tôt l'organisation sociale d'un groupe.
Oui, c'est vrai, on a pu mettre en évidence le fait que les bébés étaient comme des petits sociologues, si vous voulez, qui forment des hypothèses sur la structure des relations sociales dans un groupe, et en particulier qui sont sensibles aux relations de pouvoir, aux relations hiérarchiques. Ils vont s'attendre à ce que si un individu prévaut dans une situation de conflit, il va prévaloir à nouveau dans une nouvelle situation de conflit.
Nous verrons très concrètement ces tests très simples que vous faites passer aux bébés pour arriver à vos conclusions. Ce sont des petits sociologues en herbe. Comment se construit le cerveau des tout-petits? Que comprennent-ils du monde qui les entoure? Vous ne regarderez peut-être plus les bébés de la même façon après avoir écouté le dossier de La Tête au Carré aujourd'hui avec nos invités dans un instant sur France Inter. Sea Hero Quest, le jeu vidéo qui fait avancer la science, un nouveau modèle pour faire de la recherche à l'échelle du globe, aujourd'hui à la une de la science.
Tout comme le garçon a sauvé les souvenirs de son père, maintenant vous pouvez sauver les souvenirs futurs. Venez jouer à Sea Hero Quest, le premier jeu au monde qui aide les scientifiques à combattre la démence.
En 2016, deux universités londoniennes, une entreprise de téléphonie et un développeur de jeux vidéo s'associaient pour créer Sea Hero Quest, la quête du héros de la mer. Un jeu vidéo grand public construit pour tenter de percer les secrets du sens de l'orientation chez les hommes et ainsi permettre de diagnostiquer la démence dont la désorientation est un des signes les plus précoces. 3 millions de parties jouées plus tard dans quasiment tous les pays du monde, les chercheurs s'apprêtent à dévoiler leurs résultats pour la revue Current Biology. Axel, pour en parler, on reçoit l'un des scientifiques qui a initié cette grande étude.
Oui, Daniel, nous sommes avec le neuroscientifique Antoine Coutreau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences cognitives pour le CNRS, qui est depuis peu associé à ce projet Sea Hero Quest, et vous travaillez au laboratoire des sciences du numérique à Nantes. Alors, pour commencer, on peut peut-être se plonger un peu dans l'ambiance de ce jeu vidéo. Quelle est l'aventure proposée dans Sea Hero Quest ?
Alors, donc le participant, le joueur, doit chercher les souvenirs perdus de son père. Mmh. Et pour faire ça, il contrôle un petit bateau et il doit s'orienter dans un labyrinthe de bras de mer. Donc, il y a plusieurs tâches dans ce jeu. L'une d'entre elles, au début du niveau, on montre une carte du niveau, comme une carte routière, et on dit « vous êtes ici, et il faut que vous alliez, le plus rapidement possible, aller aux balises numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Mémorisez la carte, c'est bon. Hop, c'est parti, la carte disparaît et le joueur doit y aller le plus rapidement possible. Donc ça permet de quantifier un certain type d'orientation spatiale, il y a plusieurs types. Une autre tâche, c'est le niveau commence, donc il n'y a pas de carte cette fois-ci. Mm-hmm. Le participant navigue un petit peu au petit bonheur la chance dans le labyrinthe, il finit par trouver une fusée et on lui demande de la tirer dans la direction qu'il pense être celle de son point de départ.
Voilà. Donc il faut retenir le chemin qu'on a parcouru, et j'imagine que ces deux tâches précisément, c'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi et que vous avez mis en place avec les développeurs du jeu pour tester l'orientation. C'est le point de départ, c'est la recherche.
Exactement, oui. Donc, il y a une grande littérature depuis très longtemps sur l'orientation spatiale, les différents types d'orientation spatiale qui existent. Et donc ces tâches que je viens de vous décrire, elles ont été construites, validées, testées à de maintes reprises dans un contexte purement scientifique au sein des laboratoires. Et donc là, nous, notre travail, ça a été d'implémenter ces tâches, bien connues, dans un jeu vidéo grand public pour pouvoir atteindre un maximum de participants.
Mais il fallait que ce soit réellement ludique, parce que quand on dit aux gens vous allez jouer et puis qu'en fait ça intéresse les chercheurs mais qu'on s'amuse pas du tout, ça fonctionne pas. Donc il fallait aussi jouer sur les deux tableaux.
Exactement, si on veut atteindre un maximum de participants, il faut que le public s'y retrouve et qu'il ait effectivement l'impression de jouer à un jeu ludique qui l'intéresse réellement. Donc pour ça, on a travaillé de concert avec un studio de développeurs de jeux vidéo professionnels, Glitchers, à Londres, et qui nous ont permis d'avoir vraiment ce rendu auquel on peut s'attendre dans un jeu AAA commercial.
Manifestement, ça a fonctionné. Axel.
Oui, alors le jeu existe depuis 2 ans et vous avez cartonné, on peut le dire, puisqu'il a été énormément téléchargé, 3 millions de fois. Et vous vous apprêtez donc à publier la plus grande étude jamais menée sur le sens de l'orientation chez l'homme. Quels sont les scoops alors ?
Alors ça, c'est vraiment dingue, quoi. Quand on a vu le nombre de téléchargements, le nombre de données qu'on enregistrait sur notre serveur, on n'y croyait pas. Enfin, au début, on s'était dit, bon, si ça marche bien, on aura peut-être 10 000. Elle est peut-être 50 000 participants. Quand on a vu arriver les premiers chiffres de la première semaine, c'était incroyable. Vraiment, effectivement, c'est en tant que scientifique, on n'a jamais l'occasion de travailler avec des données de cette ampleur-là.
Et quels sont les premiers résultats alors que vous avez pu tirer de toutes ces données ?
Sans parler de la démence, là simplement en regardant les performances des joueurs à travers le monde, donc il y a un gros effet de l'âge, par exemple, et cela dès le plus jeune âge. Donc nous, on a testé à partir de 18 ans et on observe un déclin linéaire des performances des joueurs à ce jeu.
Oh là là, vous allez plomber le moral de tous nos auditeurs. À partir de 18 ans, on ne fait que décliner du point de vue du sens de l'orientation.
La fin de l'adolescence, c'est déjà le début de la fin.
On évoque souvent l'idée que les hommes sont meilleurs pour s'orienter que les femmes. Est-ce que vous retrouvez ce résultat ?
Alors oui, effectivement, pour certaines tâches d'orientation spatiale, pas toutes, il a été décrit dans la littérature que les hommes sont meilleurs que les femmes. Donc on retrouve effectivement ce résultat en moyenne dans nos données. Ce qui est intéressant, c'est que quand on compare la taille de cette différence entre les hommes et les femmes dans les différents pays du monde, on s'aperçoit que cette taille d'effet est vraiment modulée par le statut de l'égalité homme-femme dans le pays en question. Donc on a utilisé un indice qui a été créé par le Forum économique mondial, qui s'appelle le Gender Gap Index, qui mesure l'égalité salariale, l'égalité, la représentation dans les instances politiques, industrielles entre les hommes et les femmes. Donc il quantifie vraiment l'égalité homme-femme au sein de la société. Eh bien, plus cet indice était faible, donc plus l'égalité était proche entre les hommes et les femmes dans la société, et moins nous, on enregistrait de différences dans notre jeu entre les hommes et les femmes.
Autrement dit, quand les hommes et les femmes sont traités de façon égale dans la société, il n'y a pas tellement de différence au niveau du sens de l'orientation. Donc c'est plutôt quelque chose qui est lié au statut social à la société. C'est pas dans le cerveau.
Alors c'est simplement l'accès à l'éducation, l'accès au voyage, au déplacement. Si une femme ne peut pas conduire, par exemple, elle aura moins l'occasion d'exercer son sens de l'orientation. C'est aussi simple que ça.
Une question aussi, parce que vous testez donc des jeunes et des moins jeunes. On peut aussi imaginer que les moins jeunes sont moins familiers de ces jeux vidéo. Donc ça peut-être biaiser aussi vos résultats. J'essaye de me rassurer en me disant que si les plus vieux ont eu plus de mal, c'est pas forcément qu'ils ont un mauvais sens de l'orientation, c'est peut-être simplement que l'outil n'était pas le bon.
Oui, absolument. Alors ça, effectivement, c'est la première critique que l'on peut faire
à cette approche. C'est une critique tout à fait recevable. Donc, on a essayé de contrôler ce facteur de plein de façons différentes. La première d'entre elles, c'est que les premiers niveaux du jeu sont des niveaux d'entraînement auxquels les joueurs n'ont pas besoin de sens de l'orientation. Simplement, ils doivent contrôler le petit bateau pour aller d'un point A à un point B sans sens de l'orientation. Donc, on se sert du score à ces niveaux d'entraînement pour normaliser ensuite les performances dans les niveaux où il y a effectivement besoin du sens de l'orientation et séparer ce dernier de compétences purement motrices, de savoir ou pas contrôler le petit bateau sur son smartphone. Une deuxième façon qu'on a eue de vérifier que ce qu'on mesurait, c'était bien le sens de l'orientation et pas autre chose, c'était une étude où on a simplement demandé à des participants de venir au laboratoire, de jouer aux jeux vidéo. Et ensuite, on les emmenait dans la vraie vie, dans les rues de Londres, dans les rues de Paris, pour faire une tâche équivalente à celle du jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Et on a observé une forte corrélation entre les performances au jeu vidéo et à celle dans la vraie vie.
Antoine Coutreau, on arrive maintenant à la dernière étape. C'est-à-dire que vous avez toutes ces données, vous avez ces résultats. Comment est-ce que tout cela va vous aider à diagnostiquer la démence? Quel est le lien entre les deux?
Oui, effectivement. Donc, comme vous disiez au début de cette interview, la désorientation spatiale, c'est un des premiers symptômes de la démence. Donc, avant que cliniquement on observe une perte évidente de la mémoire, une altération du comportement, la désorientation spatiale peut servir pour diagnostiquer un risque de début de démence. Le problème, c'est que l'orientation spatiale, c'est quelque chose qui est extrêmement distribué dans la population normale. On connaît tous des gens qui sont extrêmement bons et d'autres qui sont extrêmement mauvais.
C'est vrai.
Ouais, je suis aussi extrêmement mauvais.
Ah oui.
Mais ça ne veut pas dire que on est plus ou moins susceptible de développer la démence. C'est juste que c'est une capacité cognitive qui est distribuée dans la population. Donc là, l'idée avec ce jeu vidéo, c'est d'avoir une grande base de données à l'échelle de la planète, avec des profils de joueurs très différents, qui soient capables de partitionner la population en sous-groupes démographiques. Donc avoir un médecin qui pourra utiliser cette base de données pour dire, ok, donc vous êtes suédois, vous avez 65 ans, vous avez tel niveau d'éducation, vous habitez dans tel type d'environnement, vous dormez tant d'heures par nuit. Donc, vous appartenez à ce groupe de population et vous êtes plus ou moins à risque de développer la démence. Votre score, il est de temps, il dévie de temps par rapport à cette moyenne. Tout va bien, vous êtes dans la norme. Ou non, là, il y a peut-être une déviation significative qui va nous faire faire des examens complémentaires.
Une dernière question, une minute, Axel.
Oui, est-ce que vous avez assez de données aujourd'hui pour imaginer arriver à obtenir cette grille de lecture du diagnostic de la démence? Ou est-ce qu'il vous faut encore des joueurs? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut jouer à votre jeu?
C'est une bonne question. Donc là, on est encore en train d'analyser cette énorme masse de données. On a encore beaucoup de travail pour vraiment comprendre toute l'information qu'elle contient. Elle est suffisamment grande pour tirer des informations assez générales au niveau du pays, par exemple. Peut-être qu'il sera nécessaire de regarder de manière un peu plus fine les zones rurales versus les zones urbaines ou les grandes banlieues, essayer d'un petit peu affiner la base de données. Donc pour ça, effectivement, le plus on a de participants, le mieux c'est, on en a beaucoup, si on en avait encore plus, ça serait mieux. Donc pour participer, c'est très facile, il suffit d'aller sur l'App Store ou sur Google Play, selon le type de smartphone que vous avez, et de télécharger l'application SeeHeroQuest. Elle est gratuite, elle est encore disponible jusqu'en novembre. Après, elle sera retirée des plateformes parce que ça coûte assez cher à entretenir.
Merci Antoine Coutreau. Et donc, si on veut aider la recherche, on télécharge ce jeu et on fait d'une pierre deux coups. Merci Axel.
Merci Daniel.
À demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pourquoi Vénus ne tourne pas toujours sur elle-même à la même vitesse? Des scientifiques pensent avoir identifié la cause, une déformation dans l'atmosphère épaisse de la planète qui se forme lorsque les vents à la surface heurtent l'une des grandes montagnes de Vénus. L'équipe a démontré que les rafales de vent remontent en altitude, ce qui ralentit les vents de l'atmosphère et accélérerait en même temps la rotation de la planète par effet de transfert d'énergie. Après plusieurs simulations informatiques, ils ont pu démontrer que ce phénomène peut raccourcir un jour vénusien jusqu'à 2 minutes. Les dauphins ressentent-ils de la tristesse? La question se pose pour les biologistes depuis une cinquantaine d'années. Plusieurs comportements de dauphins réagissant après la mort d'un de leurs proches ont été recensés, mais les scientifiques n'ont jamais pu affirmer que ces réactions étaient d'ordre émotionnel. Une nouvelle étude suggère que ces comportements tristes n'apparaissent que chez certaines espèces de dauphins et seraient possibles grâce à la taille et à la complexité de leur cerveau plus développé que chez les autres cétacés comme les baleines. Les chercheurs prévoient maintenant d'enregistrer à l'aide de drones les sons émis et les hormones libérées par l'animal lors d'un deuil. un nouveau jouet de taille fait son entrée au CERN et il s'appelle Grand Collisionneur de Hadron à haute luminosité. Pour 820 millions d'euros, le CERN compte améliorer son accélérateur de particules qui sera alors en mesure d'effectuer 10 fois plus de collisions de particules à partir de 2026. Les physiciens sont excités à l'idée d'élargir nos connaissances des lois qui régissent l'univers. Pour cela, ils tenteront de créer de la matière noire à partir de la désintégration d'un boson de Higgs, un programme alléchant. Dans un instant, on s'intéresse à ce qui se passe dans la tête des bébés. Très bel après-midi sur France Inter. C'était Son qui chantait Nil.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter.
La clinique affectée à l'université de Yale aux recherches sur le développement de l'enfant s'est livrée à une étude systématique des premiers stades de la croissance mentale chez l'enfant normal. Nous avons découvert que même l'esprit d'un nourrisson peut être observé à l'aide de méthodes scientifiques objectives. Le nourrisson ne peut pas nous dire ce qui se passe dans son esprit, pas plus qu'il ne peut répondre aux questions à la binette. Il n'en reste pas moins qu'il manifeste extérieurement ses facultés ainsi que les aspirations de sa vie intérieure. Ainsi, nous pouvons désormais nous représenter l'esprit du petit enfant comme un complexe organique qui modifie sa forme et sa structure au fur et à mesure qu'il se développe. Autant que la transformation de son corps, La création de l'esprit de l'enfant s'opère à travers les processus d'organisation de la croissance. Ces processus s'effectuent bien avant la naissance. On peut se représenter l'esprit de l'enfant comme une merveilleuse usine qui va se développant et fonctionnant. Et il progresse ainsi, de degré en degré, non point tellement sous l'effet de l'éducation, mais avant tout parce qu'il est merveilleusement doué de ses dons naturels de développement qui suscitent des coordinations de plus en plus complexes entre les yeux, les mains et les cellules nerveuses.
Cette archive date de 1949. Voilà comment, à l'université de Yale, en tout cas dans ce rapport, on s'interrogeait sur ce que pensaient les bébés, sur ce qu'il y avait dans la tête des bébés. C'est aussi la question à laquelle on s'intéresse dans La Tête au Carré aujourd'hui avec Ghislaine Dehaene, pédiatre, neuroscientifique, directrice d'une équipe de neuroimagerie du développement à l'INSERM sur la plateforme Neurospin du centre CEA de Saclay, et Olivier Mascaro, chercheur au CNRS au sein du Baby Lab de l'Institut des sciences cognitives à Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de présenter notre sujet? C'était il y a 68 ans, hein, Ghislaine Dehaene.
Oui, mais je dirais que Darwin avait déjà parlé aussi de la même chose en regardant ses enfants. Il avait fait un tout petit texte disant qu'il fallait observer les bébés et qu'on allait sans doute mieux comprendre comment l'esprit humain se développait en regardant déjà chez le tout petit quelles étaient un peu les prémices de ce développement. Donc sur cette hypothèse qu'il faut regarder les bébés, je pense qu'Olivier et moi sommes tout à fait d'accord. Maintenant, sur ce qu'on met et sur ce qu'on pense que le bébé fait, je pense que là, il y a quand même eu une évolution.
Il y a eu une évolution, hein, certaine, Olivier Mascaro.
Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec le constat méthodologique qui est fait dans l'extrait que vous avez présenté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des méthodes beaucoup plus sophistiquées qui nous ont permis de mettre en évidence des capacités bien plus élaborées que même ce qui est évoqué dans le documentaire. Donc là, ici, dans l'extrait que vous nous donniez, on parle de coordination sensorimotrice. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les enfants, très très tôt, ont des répertoires conceptuels très développés dans toutes sortes de domaines, y compris les domaines sociaux, les domaines de la représentation des objets physiques, des objets biologiques.
Ouais. Ils ont quel âge, les bébés sur lesquels vous travaillez?
Alors moi, je travaille sur des bébés relativement âgés, on va dire, donc c'est de 6 mois à 2 ans.
Ah oui, 6 mois à 2 ans. Mais alors comment on interroge, comment, parce que vous nous donnez quand même déjà des premiers résultats en disant qu'ils ont une vision assez claire du jeu social, des règles du jeu social, des rapports de force au sein d'un groupe. Comment vous en arrivez à des conclusions pareilles sur des bébés qui ont 6 mois, qui ne parlent pas, hein?
Alors le type de méthode qu'on utilise, ça va mettre en jeu des mesures indirectes. Effectivement, on peut pas leur poser de questions explicites. Donc ce qu'on va utiliser, c'est des mesures notamment d'éveil et notamment des mesures liées au regard de l'enfant. On va par exemple exploiter le fait que les bébés sont effectivement des formidables machines à apprendre et qu'ils vont orienter leur attention de manière optimale pour apprendre de leur environnement. Mmh. Et donc on peut créer des situations qui vont être par exemple surprenantes pour l'enfant et mesurer le temps qu'ils vont passer à examiner ces situations. Mmh. Donc dans le cadre par exemple d'une relation sociale, si on établit une relation entre deux individus et puis on montre un scénario qui va venir contredire cette relation sociale, on peut voir si le bébé va passer plus de temps à regarder ce scénario.
Un bébé qui scotche, qui regarde plus intensément quelque chose, c'est un bébé dont le raisonnement est contrarié. C'est-à-dire il se dit ça ne se passe pas comme je pensais que ça devait se passer.
C'est la façon la plus riche de le dire. C'est vrai que c'est la façon qu'on a de le décrire spontanément en tant qu'adulte. On peut dire au moins que le bébé va passer plus de temps à traiter l'information. Donc c'est quelque chose qui est nouveau pour lui, qui est plus difficile à traiter. Et sous certaines conditions, ça peut aussi être effectivement de la surprise qui va générer des inférences et une recherche d'explication.
Mais alors très concrètement, quand vous dites un bébé sent qui est le dominant, le dominé, qui est le chef en fait dans un groupe social, comment vous voyez ça ?
Bien, en fait, on a exploité le fait que très très tôt, les enfants sont capables de se représenter les buts des individus. Donc, ils se représentent le fait que les gens veulent des choses, veulent réaliser des buts. Et on peut montrer dans certaines situations que si les buts d'individus sont en conflit, par exemple lorsque deux individus sont en conflit pour occuper un espace, les enfants vont s'attendre à ce que si A domine B dans cette situation-là, la même personne domine à nouveau dans une situation complètement différente. Mmh. Par exemple, lorsque les deux individus sont en conflit pour obtenir un objet.
Alors ça se passe avec des sortes de petits personnages vidéo, hein, très simples, un carré, un triangle avec deux yeux, on les voit, un qui veut occuper une place, et puis voilà, on crée un rapport de force entre ces deux petits personnages, on voit comment le bébé regarde.
Voilà, c'est l'équivalent d'un petit dessin animé, et on va regarder quels sont les dessins animés, si vous voulez, qui vont générer le plus d'attentes et le plus de temps de regard de la part de l'enfant.
Ghislaine Dehaene, c'est relativement nouveau cette idée que dès les premiers âges de la vie, les bébés élaborent des raisonnements. Ce ne sont pas simplement des éponges qui emmagasinent de la connaissance, ils sont déjà en train de construire des petits raisonnements.
Voilà, ils sont déjà en train de construire. Et ce qu'on avait un petit peu dans l'interview de Yale, c'était un développement très partant, comme le disait Olivier, de sensorimoteur, donc des fonctions les plus primitives. Et au fur et à mesure que le cerveau devenait de plus en plus mature, il procurait au bébé des capacités plus complexes. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit grâce à l'imagerie, c'est que toutes ces capacités sont là dès le départ, ouais. Et qu'effectivement, elles leur permettent des raisonnements déjà complexes, donc sur la cognition sociale, sur le nombre, sur le symbole, de manipuler des symboles. On vient de montrer ça aussi dans le laboratoire, qu'ils sont déjà capables d'avoir des attentes très abstraites, ouais. Sur leur environnement.
Alors vous travaillez sur des bébés, de quel âge ?
Beaucoup, beaucoup plus jeunes, si je puis dire, parce que nous, ouais. On commence chez le prématuré, donc déjà à 6 mois de grossesse. On a fait des études avec l'équipe d'Amiens, donc chez des bébés qui sont encore dans les centres de néonatologie, pour essayer de comprendre à 6 mois de grossesse, à un moment où les neurones ne sont pas encore en place, puisque les neurones sont formés au centre du cerveau et doivent gagner leur place définitive à la périphérie du cerveau, donc ils sont en train de migrer. Et à 6 mois de grossesse, c'est pour ça qu'il faut attendre 9 mois, qui est la grossesse, le temps de grossesse normale. Les neurones sont encore en train de migrer, si on fait une période très délicate pour le développement cérébral. Donc on a regardé un petit peu si ces jeunes bébés étaient déjà capables, par exemple, de discriminer des voix ou de discriminer des phonèmes. Et on a été très surpris de constater que déjà, l'espèce d'architecture neurale qui, chez l'adulte, va permettre de reconnaître l'autre, de reconnaître aussi ce que dit l'autre, ce qu'on utilise aujourd'hui en vous écoutant, eh bien, est déjà en place à 6 mois de grossesse.
Alors, comment vous faites pour le savoir, ça ?
Alors, on est obligé, là on ne peut pas du tout se baser sur le comportement, puisque des prématurés de cet âge sont totalement immatures, et donc ne peuvent pas réagir encore beaucoup, enfin, de façon très robuste à l'environnement. Donc, on utilise des méthodes d'imagerie, comme l'électroencéphalogramme, donc on met des petits capteurs sur la tête qui vont enregistrer l'activité cérébrale, ou la spectroscopie dans le proche infrarouge. Donc on met des petites lumières dont l'intensité lumineuse est captée par l'oxygène dans les globules rouges. Et donc, suivant la teneur en oxygène, on peut mesurer si une région ou pas travaille. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir qu'effectivement, si on fait ba-ba-ba-ga, on a une région du cerveau qui répond au changement. Ou si on passe d'une voix d'homme à une voix de femme, on a une autre région du cerveau qui répond.
Et ces zones du cerveau, ce sont sensiblement les mêmes. On voit en germe...
C'est ça qui est étonnant, parce qu'on s'attendait vraiment qu'au départ, ça soit d'abord de toutes petites régions. Mais non, c'est déjà l'ensemble du cerveau, même les régions frontales, qui sont donc ces régions qu'on a derrière le front qui sont développées particulièrement chez l'humain. Et je dirais qu'à Yale en 49, ils pensaient certainement qu'elles ne servaient pas chez le bébé, parce que c'est les régions qui se développent aussi pendant la puberté, donc très très tard. Et bien, chez le prématuré, elles sont déjà fonctionnelles, elles vont déjà répondre, et avec déjà des asymétries gauche-droite, c'est-à-dire que chez l'adulte, c'est l'hémisphère gauche qui sert pour le langage, et l'hémisphère droit qui sert plus pour la cognition sociale. Eh bien, on voit déjà ça chez le prématuré. Donc, on a vraiment un plan dès le départ pour organiser ce cerveau, pour nous permettre d'apprendre, en fait, d'apprendre un environnement qui est particulièrement riche et complexe chez l'humain.
C'est vrai que les bébés ont tout à apprendre. La tâche est immense. Comment apprennent-ils à parler, à compter ? Quelle est la part d'inné et d'acquis ? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission avec nos invités dans un instant sur France Inter.
Seul
l'offrande de Barbagallo sur France Inter.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce bazar là? C'est-à-dire qu'ils nous emmerdent toute la journée avec leur pub à la télé. Regarde-moi ce travail là, c'est de la merde le matériel. Je colle, ça pendouille, je décolle, scratch, la couche est foutue.
Allez, on recommence.
Oh non, merde, non! Elle pisse! Oh non! Le canapé, quel chameau cette môme! Elle a attendu qu'on enlève la couche pour pisser!
Vous aurez reconnu trois hommes et un couffin. Pas toujours facile de communiquer avec un bébé et de s'entendre. On s'intéresse au cerveau des bébés dans la tête au carré en compagnie de la pédiatre et neuroscientifique Ghislaine Dehaene et d'Olivier Mascaro, chercheur CNRS spécialisé en psychologie du développement. Et les auditeurs commencent à nous envoyer leurs questions. Il y a par exemple Anne qui vous dit « On dit que les bébés sont des éponges émotionnelles. Est-ce vrai? Et jusqu'à quel âge cela dure ?» Ghislaine.
Non, je pense pas que les bébés soient des éponges de quoi que ce soit. Ils sont pas plus des éponges de l'environnement que des éponges émotionnelles. Ils ont leur propre caractère qu'on voit très très tôt quand on est parent. On s'aperçoit très bien que son aîné et son second, on a beau les élever pareil, c'est différent. Donc, non, ils ont leur propre caractère. C'est sûr que, comme tous les enfants, ils répondent non seulement à ce qu'on leur dit, mais à beaucoup de signes non-verbaux. Ouais. Je crois qu'on s'aperçoit pas assez qu'on donne beaucoup d'indices non-verbaux et que les enfants sont aussi sensibles à ces indices non-verbaux, et pas seulement à ce qu'on croit leur dire.
Mais Olivier Mascaro, que sait-on exactement de ce que ressentent ces bébés? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les sentiments sont exacerbés. Un bébé en colère, on ne peut pas douter, il est en colère, il braille. Un bébé qui sourit, c'est aussi très expressif. Alors est-ce que c'est juste visuel ou est-ce que effectivement leurs émotions sont exacerbées?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a une question qui est de est-ce qu'on peut mettre en lien ces expressions émotionnelles très fortes et un ressenti qui lui-même serait exacerbé, serait extrêmement fort. Ce qu'il faut comprendre chez le tout petit bébé, c'est que les émotions, c'est leur toute première façon de communiquer ouais. avec les gens autour d'eux. Et donc, effectivement, par exemple, le fait de pleurer, ça va être une façon de communiquer qui est nécessaire pour transmettre le fait qu'ils ont besoin de telle ou telle chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a derrière un ressenti absolument, une détresse par exemple extrêmement forte. Après, ce qu'on sait, c'est effectivement que très tôt, les expressions émotionnelles que les enfants utilisent, ils les utilisent à but communicatif. Ils vont par exemple, au niveau par exemple du sourire, on voit que les enfants vont, à partir de la première année de vie, ils vont se mettre à sourire plus quand une personne est là pour être la cible, si vous voulez, du sourire. Donc ils vont vraiment utiliser ces émotions pour communiquer de manière sociale. Et puis après,
intentionnellement, hein. Ça veut dire qu'on sourit avec l'idée qu'il va y avoir une réponse.
Avec l'idée, en tout cas, que le sourire est dirigé vers quelqu'un.
Ouais.
Et puis par rapport à ce que vous disiez sur les éponges émotionnelles, c'est vrai qu'entre 1 et 2 ans, les enfants vont être déjà très très sensibles à tout ce que les parents et les gens autour d'eux vont pouvoir communiquer par le biais des expressions émotionnelles. Par exemple, si quelqu'un exprime une émotion positive ou une émotion de dégoût vis-à-vis d'un objet, par exemple, les enfants vont préférer s'approcher de l'objet vers lequel les parents ont exprimé une émotion positive. Et donc, ils vont utiliser cette information-là pour communiquer.
Donc, il y a bien cette notion d'éponge, ou alors peut-être d'empathie émotionnelle quand même.
Je dirais pas éponge non plus, mais je pense qu'ils sont sensibles aux émotions. Ils sont sensibles aussi d'une manière qui peut être en particulier sélective. Ils vont par exemple préférer s'inspirer de certaines émotions et des émotions qui sont produites par certaines personnes plutôt que par d'autres. Donc si c'est les parents, c'est différent par exemple de personnes étrangères. Donc c'est des éponges, si vous voulez, mais des éponges sélectives et des éponges qui font des inférences. Donc ce ne sont pas des éponges passives.
Alors sur l'apprentissage, Ghislaine Dehaene, vous nous avez dit dans la première partie de cette émission que le cerveau des bébés commence à se modeler dans le ventre de sa maman. On le voit quand avec les bébés prématurés et les tests que vous pouvez faire. Est-ce que ça veut dire que l'apprentissage même commence avant la naissance?
Oui, il y a des expériences très jolies de Benoît Châle, en particulier sur la mémorisation, par exemple, des goûts du liquide amniotique, puisque pendant la grossesse, le bébé va avaler son liquide amniotique. Et donc, on le sait aussi que suivant ce qu'on mange, on va donner un goût au liquide amniotique. Et donc, il y a des préférences alimentaires qui sont déjà mises en place pendant la fin de la grossesse. Donc, il apprend déjà. Il apprend aussi, puisqu'il entend pendant la grossesse.
À partir de quel mois il entend ?
Alors, c'est toujours des questions. C'est compliqué. Il faut pas seulement penser à l'oreille. Il faut penser aussi derrière qu'il y a un cerveau et que donc c'est pas seulement le fonctionnement de l'oreille. Il faut aussi que le cerveau derrière soit capable de traiter. Et donc on pense tout pendant le dernier trimestre de la grossesse, il entend et il va commencer à apprendre sans doute la voix de sa maman, je dirais dans le dernier mois de la grossesse, parce qu'il faut aussi que les mécanismes de mémoire soient mis en place. Il faut penser le cerveau comme une suite de régions qui vont avoir une maturation, un calendrier de maturation différent suivant les différentes régions, et chacune de ces régions fait un travail différent. Donc il ne faut pas seulement entendre, il faut ensuite traiter, discriminer, et puis il ne faut pas seulement discriminer, il faut se souvenir de ce qu'on... Donc tout ça, c'est pris en charge par différentes régions qui ont une maturation différente. Donc le bébé entend dès 6 mois, commence à reconnaître et à discriminer sans doute aussi dès 6 mois de grossesse, mais apparemment ne se souvient de la voix de sa maman que pendant le dernier mois de la grossesse. Et la voix du papa qui est un peu plus lointaine, donc bon, il faut que le papa soit parle plus près du ventre, soit il va l'apprendre pendant les premiers jours de vie.
Alors il apprend, on a compris, à reconnaître la voix des proches, mais est-ce qu'il apprend déjà du coup un peu le langage, ça va lui servir?
Oui. Alors, faut se dire aussi que si on pense à cette capacité d'apprentissage, il doit apprendre plusieurs choses à la fois. Comme le disait aussi un petit peu Olivier, par exemple, il doit apprendre que, par exemple, maman n'aime pas le chocolat. Sans doute improbable, mais que tout le monde autre aime le chocolat. Donc en fait, on a plusieurs choses à apprendre en même temps. On doit apprendre que bateau et bateau, c'est toujours le même mot bateau, mais ma voix est différente de celle d'Olivier, différente de la vôtre. Il faut que j'apprenne aussi à reconnaître vos voix. Et donc, ces apprentissages sont distribués sur différentes régions cérébrales. Et donc, on va apprendre plusieurs choses à la fois avec plusieurs régions cérébrales et en fonction de plusieurs contextes. Et ça devient très compliqué. On ne sait pas comment les bébés font.
Alors je vous propose d'écouter Maya Grattier, qui est professeure de psychologie du développement. Elle est en train de décrypter un échange entre un nourrisson et sa mère.
Ça t'a plu ?
Donc réponse du bébé, mais la mère élabore, elle est toujours sur le même sujet.
Ah, t'aimes bien prendre le métro ? T'aimes bien prendre le métro dans le kangourou avec maman ? Ah, bon, tu me rassures.
Voilà, ça c'était ce moment d'intensité maximale. Et puis, comme ils se sont beaucoup excités ensemble, eh bien, il faut calmer. Et donc, c'est la mère qui s'occupe de la conclusion.
Ah, c'est bien.
Olivier Mascaro, ce qui est intéressant quand on regarde de près ces échanges entre mère-enfant ou entre le papa et l'enfant, c'est que les réactions du bébé ne viennent pas au hasard. Il laisse parler l'adulte qui lui fait face et il attend les blancs pour lui-même exprimer quelque chose qui n'est pas encore du langage, mais qui sont des balbutiements. Tout ça, ça a un sens déjà.
Tout ça, ça a un sens, oui. On sait que très très tôt, les enfants vont être sensibles à la structure de la conversation, si vous voulez, ou quelque chose qui ressemble à cela, et au tour de prise de parole. Un peu ce que l'on fait à l'heure actuelle, on échange, et on a deux rôles, et il y a une personne qui écoute et l'autre personne qui parle. Et on voit qu'il y a une sensibilité à cet aspect-là de la communication très très tôt chez l'enfant. On pense que cette sensibilité à la prise de parole, si vous voulez, au tour de parole en quelque sorte, il permet de jouer un rôle dans la détection d'une interaction communicative et aussi la détection d'une intention de communiquer de la part des adultes vers les enfants. Ça, c'est un des aspects. Et un autre aspect intéressant que vous avez dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est le fait que la mère va utiliser une intonation particulière pour s'exprimer et pour communiquer avec l'enfant. Si vous avez bien écouté, ça va être une voix plus aiguë, avec une prosodie exagérée, ce qu'on appelle le mamané ou motherese en anglais. Et cette façon-là de parler, on peut penser qu'elle va jouer un rôle aussi dans le fait de faciliter les apprentissages chez le jeune enfant.
Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que cette façon très particulière qu'on adopte tous assez spontanément face à un bébé, hein, on se met à surarticuler, à faire des grands écarts d'intonation avec une mélodie très exagérée, ça a un sens pour le bébé, ça a un vrai intérêt.
Sans doute, oui, parce que d'abord, le bébé est beaucoup plus lent que l'adulte, donc de ralentir sa parole et de ralentir les échanges et de les surexprimer et sans doute lui donner des valeurs beaucoup plus importante pour son apprentissage. Après ça, il y a d'autres civilisations où on ne parle pas aux bébés directement et de la même façon et où ils apprennent quand même à parler. Donc je pense que le cerveau du bébé est un cerveau qui apprend de toute façon. Alors on peut l'aider le plus qu'on peut, mais bon, faut se dire qu'il n'y a pas de bonne manière de faire et qu'à travers toutes les civilisations, il y a quand même eu une grande variation dans la façon de s'adresser au bébé et que tout le monde a appris.
Ouais, et dans la façon de s'adresser au bébé, parfois, ça ressemble à ça.
Poutou, 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 poutou. Moukou, choutou, koutou, redou, bou. Kissou, koutou, koutou.
Alors, ça dure assez longtemps. Hein. C'est Michel Boujna dans Trois hommes et un couffin encore. Ça, c'est, on se fait plaisir ou le bébé, ça lui apporte quelque chose quand on ne dit plus rien et qu'on fait juste des onomatopées.
On se fait plaisir, ça lui fait plaisir et c'est un échange. Enfin, peut-être Olivier en parlera beaucoup mieux que moi, mais la principale action de ce genre de choses, c'est vraiment de créer un échange entre l'adulte et l'enfant et d'avoir un plaisir à communiquer ensemble et à échanger.
Olivier.
Oui, c'est vrai qu'il y a un aspect échange émotionnel et relationnel et on sait que c'est très important pour le développement de l'enfant aussi, cet aspect affectif. Hein. Et puis, il y a un autre aspect qui est lié justement donc à cette façon de parler exagérée, qui est que sous certaines conditions, elle peut aider l'enfant à détecter le fait qu'on a l'intention de lui communiquer quelque chose. À nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas évident de reconnaître sous quelles conditions quelqu'un a l'intention de vous transmettre une information. Ouais. Et dans ces situations-là, quand on parle des tout-petits-enfants, ils vont pouvoir reconnaître qu'ils sont déjà dans une interaction de communication. Et bon, ils ne peuvent pas effectivement interpréter ce qu'on leur communique. En l'occurrence, on leur communique pas grand-chose dans cette situation-là.
De la bonne humeur, peut-être.
De la bonne humeur, voilà. Le plaisir d'être avec eux. Mais c'est déjà un premier pas vers ensuite le traitement des actes communicatifs.
Et j'ajouterais que c'est quand même une spécialité de l'espèce humaine, parce qu'on a montré effectivement que les petits chimpanzés pouvaient apprendre à utiliser des outils en regardant leurs parents. Mais jamais on a ces échanges intenses entre la mère et l'enfant pour montrer quelque chose. Et les boogie-boogie-boogie est la première étape en fait de ces échanges où on va communiquer pour apprendre quelque chose et où le bébé sait qu'il va apprendre parce que sa mère ou l'adulte est en train de communiquer, de se mettre dans cet état particulier pour transmettre une information.
Vous avez aussi fait une découverte assez étonnante et intéressante du point de vue de l'apprentissage, Olivier Mascaro. C'est cette idée que l'enfant fait confiance naturellement à l'adulte, même quand il a des bonnes raisons de savoir que l'adulte se trompe.
Oui, c'est vrai. On a pu voir que effectivement les bébés étaient très confiants, mais si vous voulez, à la rigueur, c'est pas une caractéristique que des bébés, les adultes aussi sont très confiants. Si on pense à toutes les croyances qu'on a sur le monde, on est tous d'accord pour dire par exemple qu'il y a des entités invisibles comme les molécules d'oxygène et que celles-ci peuvent avoir un impact important sur notre santé, ou encore que Napoléon était une figure historique importante. Et si on nous demandait par exemple de justifier ces croyances, tout ce qu'on pourrait dire c'est: quelqu'un me l'a dit, je l'ai entendu quelque part. Donc le fait qu'une information nous soit communiquée par autrui, c'est quelque chose qui nous donne des raisons de croire aussi chez l'adulte. Et chez le jeune enfant, on a pu voir qu'il y avait effectivement une forme de confiance très forte qui se développait très précocement, c'est-à-dire que même dans une situation très simple où un enfant va chercher un jouet, voit où le jouet se situe, si un adulte lui communique que le jouet se trouve dans un autre emplacement, l'enfant va faire plus confiance à l'information qui est communiquée par l'adulte qu'à ce qu'il a vu. Et cette confiance va devenir de plus en plus forte au cours de la deuxième année de vie. C'est-à-dire que les enfants de 1 an vont faire moins confiance à l'information communiquée que les enfants de 2 ans, ce qui montre que les enfants deviennent non pas plus sceptiques, mais plus confiants au cours des premières années de vie.
De très nombreuses questions sont arrivées pour vous de la part de nos auditeurs. On va prendre le temps d'y répondre dans un instant, suite et fin de notre immersion dans la tête des tout-petits, avec nos invités dans un instant sur France Inter.
Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Un jour, moi, j'irai au Japon. Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Au pays du soleil levant.
We'll be right back.
soleil, le vent.
Soleil au réveil, c'était Jojoa et Lieutenant Nicholson sur France Inter. La programmation musicale de La Tête au Carré est signée Thierry Dupin.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Comment je construis la connaissance ? À partir d'un état zéro qui est la naissance. Et alors, pour savoir, étant biologiste de formation, comment je construis la connaissance, il fallait reconstituer son histoire biologique. Et chez l'enfant, alors, l'accroissement de la connaissance est quelque chose de stupéfiant. Entre la naissance et 18 mois, tout ce qui se construit chez un bébé qui ne peut pas recevoir des leçons de l'adulte, c'est quelque chose de formidable.
C'était la voix de Jean Piaget, psychologue spécialisé dans l'enfance, dans Apostrophe, le 20 mai 1977. On s'intéresse à un âge de la vie par lequel nous sommes tous passés, mais dont personne n'a le moindre souvenir. À quoi pensions-nous lorsque nous étions bébés? Comment percevions-nous le monde? C'est ce que nous essayons de voir avec Olivier Mascaro, chercheur au sein du Baby Lab de l'Institut des sciences cognitives à Lyon, et Ghislaine Dehaene, directrice d'une équipe de neuroimagerie du développement à l'INSERM. Ghislaine Dehaene, comment se fait-il que nous gardions aucun souvenir de cette période de notre vie quand nous étions bébés?
Beaucoup de nos souvenirs sont fondés sur le langage, sur le fait qu'on se redit et qu'on se remémore avec des mots ou avec des images la période des vacances dernières. Alors que, évidemment, chez le tout petit, il n'a pas encore de langage, il a beaucoup de sensations qui peuvent être très élaborées, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent monter jusqu'à des régions, mais il ne va pas pouvoir les transcrire en mots, il ne va pas pouvoir les redire immédiatement, donc voilà, c'est sans doute pour ça. Mais en fait, on n'a pas vraiment d'explication sur le fait, sur cette amnésie infantile qu'on décrit, mais qu'on ne sait pas encore très bien expliquer.
Mais on garde une mémoire inconsciente de tout ça, au fond de nous ?
Oui, alors il y a eu des études un peu liées à la prématurité encore, où ces enfants sont piqués pour des raisons médicales, pour extraire le sang, et où on s'aperçoit qu'adultes, ils ont une sensibilité à la douleur qui est plus importante, et donc on a pu revenir sur leur dossier médical de l'époque et montrer que la sensibilité à la douleur adulte était proportionnelle au nombre de piqûres qu'ils avaient eues au talon pour récupérer du sang au moment de leurs ennuis cliniques.
Alors quelques-unes des questions qui sont arrivées pour vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Nielsen vous demande, à partir de quel âge l'enfant comprend-il que le reflet dans le miroir, c'est lui? Et puis toujours un peu dans le registre de la conscience, il y a Charlotte qui vous demande, mon professeur de philosophie m'a dit qu'avant que les bébés aient conscience d'eux-mêmes, vers l'âge de 2 ans, ils pensent être ce qu'ils voient. Par exemple, lorsqu'ils voient leur mère, ils pensent être leur mère. Est-ce vrai? Demande Charlotte. Alors sur cette question.
Alors sur cette question dernière, non. Je ne pense pas qu'ils pensent qu'ils sont leur mère. La question porte en fait sur la conscience de soi. À partir de quel moment on sait qu'on est soi et donc qu'on n'est pas un autre. Alors tant qu'on ne sait pas qu'on est soi, on ne peut pas dire si on est soi ou un autre. Donc la deuxième question tombe un peu à l'eau. Alors on a cru très longtemps que c'était à la fin de la deuxième année de vie parce que, les tests qui permettaient de le voir, par exemple, on colle un point rouge sur la figure de l'enfant, on le met dans un miroir. S'il essaye de l'enlever sur sa propre figure, c'est donc qu'il a compris que le reflet dans le miroir est bien lui.
Et alors ça arrive à partir de quel âge?
Je sais pas, 18 mois, 2 ans
18 mois, oui.
À partir de 18 mois. Donc, est-ce qu'on peut en conclure vraiment qu'à partir de avant 18 mois, il n'a pas vraiment conscience de lui-même?
Alors, il y a des expériences très, très récentes de Sid Quider, au laboratoire de psycholinguistique à Paris, qui montrent qu'en utilisant des lasers et en expliquant au bébé ce que veut dire un laser, avant la première année de vie, on pouvait lui faire des taches avec ces lasers sur la peau, donc sans qu'il le sente, mais où il y a un point rouge, et le bébé va essayer d'enlever le point laser sur sa figure. Donc, avec un petit entraînement pour qu'il comprenne ce que ça veut dire. Parce que la question, quand un bébé ne réussit pas une de nos tâches, on ne sait pas si on lui a pas bien expliqué, qu'on n'a pas de mots, qu'il n'a pas de mots, et qu'on l'a mis dans la situation pour qu'il puisse comprendre ce qu'on veut de lui. Et donc, c'est ça qui est difficile. Mais on arrive avec à essayer d'expliquer ce genre de choses.
Olivier Mascaro, Lucille nous demande, depuis son premier mois, ma fille sourit tout le temps dès qu'elle voit un nouveau visage ou que quelqu'un la regarde. Est-ce que les premières manifestations émotionnelles du bébé déterminent un caractère futur, curieux ou avenant ? Alors, est-ce que des expériences ont été faites dans ce registre ? Savoir si ce qu'on perçoit du caractère d'un bébé va se transformer plus tard en quelque chose de concret ?
C'est vrai que c'est une intuition qu'on peut avoir et on peut imaginer qu'il y a effectivement des déterminants très précoces des caractéristiques de la personnalité. Ceci étant dit, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'études systématiques. Donc, je ne peux pas répondre, vous dire oui, ça va être un enfant qui va être très, très avenant par la suite. Ouais. Il y a beaucoup de changements au niveau social par la suite et notamment avec tout ce qui concerne l'attachement. Autour, donc les très très jeunes enfants vont être beaucoup plus avenants vis-à-vis des personnes nouvelles, des personnes étrangères. Et puis autour de 8-9 mois, on va voir qu'ils vont commencer à se méfier un peu plus des gens qu'ils ne connaissent pas. Et on pense que cet aspect, cette méfiance vis-à-vis des étrangers, elle joue un rôle aussi lorsque l'enfant se détache un petit peu de ses parents et commence à se mouvoir par lui-même. Et déjà à ce moment-là, il y a des changements donc dans la façon d'entrer en relation à l'autre. Et puis ensuite, par la suite, évidemment, tout au long du développement, y compris dans l'enfance, l'adolescence, etc., etc.
Okay. Alors, oui, il y a aussi des choses sur lesquelles vous avez tous les deux réfléchi, certains travaillé, cette notion de chiffres. Les bébés, assez rapidement, ont la capacité à se représenter les quantités. Alors, de là à dire qu'ils sont bons en maths, c'est peut-être un peu rapide. Qu'en est-il alors de cette représentation des chiffres?
Alors, qu'on partage avec les animaux, c'est-à-dire que même les pigeons, les rats savent très bien où il y a le plus de graines, par exemple. Et donc, les bébés, très rapidement, sont capables de voir qu'il y a plus d'objets à cet endroit-ci qu'à cet endroit-là, ou d'entendre qu'il y a plus d'événements sonores. Donc, mais ce n'est pas encore des maths, c'est simplement une espèce de module de sens des nombres qu'on partage avec l'animal. Ce qui arrive ensuite, c'est que les humains sont capables de construire un système de calcul exact par-dessus cette représentation approximative qu'on partage avec les autres animaux. Mmh. Et c'est pour ça, quand on dit les humains apprennent beaucoup, mais les animaux font déjà beaucoup de choses. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que nos collègues qui travaillent avec les macaques ou avec les rats, dès qu'on a une expérience qui marche chez les bébés, disent « Attendez, on va faire exactement la même et on va voir si vos bébés sont si forts que ça. » Et souvent, on montre que les animaux font les mêmes choses que les bébés. Alors, à partir de quel moment les bébés humains sont réellement supérieurs aux autres animaux, c'est encore une quête qu'on n'a pas obtenue. Sans doute, le langage est crucial pour le développement humain.
Finalement, ce qu'on a de plus, c'est cette capacité à former un langage, à l'apprendre et à l'avoir
communiquer,
construit.
À savoir qu'on peut passer de l'information à quelqu'un d'autre, ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire de faire confiance à quelqu'un et de faire confiance à l'information qu'il va nous donner. Information qu'il nous transmet par le langage, le plus souvent, puisqu'on est une espèce qui parle, mais aussi par d'autres indices de dégoût ou de plaisir vis-à-vis de telle ou telle situation. Mmh.
Plus on avance, plus on se rend compte que les capacités des bébés sont plus importantes que ce que l'on pensait.
Oui, parce qu'on partait de très très bas. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine il y a 30 ans, à la naissance, les bébés, ils étaient uniquement sous corticaux. Alors ça, on partait vraiment de très très bas. En tout cas, en médecine, les parents étaient évidemment plus avisés.
Merci à tous les deux. Si des auditeurs ont envie de participer à ces expériences que vous faites avec les enfants, qui sont plus des tests, évidemment, on peut aller sur vos sites internet respectifs et s'inscrire, Olivier ?
Oui, on invite toutes les familles qui sont intéressées, notamment donc pour ma part dans la région lyonnaise, à nous contacter. Donc, vous pouvez nous trouver en tapant sur un moteur de recherche Baby plus loin Lyon et vous tomberez sur nous.
On va mettre tout ça en lien sur la page de l'émission. Merci à tous les deux. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui. Demain, dans la tête au carré, nous recevrons Philippe Charlier, médecin légiste passionné d'histoire.